La pause maternelle. Bonjour et bienvenue dans la pause maternelle sur Macalade, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Cette émission est donc destinée aux mamans pour parler sans tabou de sujets en lien avec la maternité et qui peuvent toutes nous toucher. Le but de cette émission est de leur permettre de témoigner de leur vécu. Chaque mois, nous allons recevoir le témoignage d'une maman en direct ou de manière anonyme et nous échangerons ensemble autour de son expérience. Je suis Doula et je suis sous le nom de Doucela. Je suis accompagnée de Lucille, musicothérapeute clinicienne au cabinet Les Sons d'Essence. Salut Lucille, comment tu vas?
Eh bien écoute, ça va très bien, merci beaucoup, ravie de retrouver tout le monde. On a une installation, franchement, qui est digne de... J'ai l'impression qu'on est dans une version un peu de Men in Black. Je sais pas quand est-ce que je sors le prochain, mais sans rire. Bien, on a Mathilde qui est sur le PC là-bas, et en même temps, on a donc Elodie qui a changé de place, et moi qui suis de l'autre côté avec, donc du coup, ma petite mixette et compagnie. Hein, ça fait un petit moment maintenant, ça fait un an que c'est comme ça. Donc ça va être assez drôle. J'ai l'impression d'avoir une tête flottante là-bas. J'avoue, je suis désolée Mathilde, mais ça me donne cette impression-là. En tout cas, ravie de te recevoir et que tu puisses nous partager ton vécu, ton expérience autour de ta propre maternité.
Comment tu te sens Mathilde aujourd'hui ?
Là, ça va. C'est une belle journée.
Bon,
une inondation à côté de chez moi.
Ouais, vous êtes gâtée en ce moment.
Ouais, c'est sympa.
Écoute, on va commencer. Alors, pour commencer, j'avais une question à te poser. C'est comment s'est passée ton entrée dans la maternité ? Comment l'as-tu vécu ?
Eh bien, je l'ai vécu avec beaucoup de préparation. C'est quelque chose qu'on avait choisi plusieurs mois à l'avance. On s'était dit à partir de telle date, on aimerait bien devenir parent. Enfin, en tout cas, essayer de devenir parent. Et je me suis un peu retrouvée confrontée à des choses que je pensais que ça arrivait qu'aux autres. C'est-à-dire l'attente ou des échecs. Et du coup, c'était un peu plus... Enfin, voilà. On est passé du rêve à l'espoir à quelque chose que finalement, on ne s'y attendait pas du tout.
C'est vrai qu'on est on n'est jamais préparé. Dans les films, on nous véhicule une image de la maternité, de la grossesse idyllique où tout va très vite, tout se passe très très bien. Et voilà, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer sont très peu... très peu visible. Donc c'est vrai qu'on peut un peu tomber des nues quand ça nous arrive. Écoute, je te propose de continuer un peu, nous expliquer un peu ton parcours, comment s'est passé ta première grossesse, parce que donc tu es maman de deux enfants.
Exactement.
Donc voilà, je te laisse nous expliquer un petit peu ton parcours pour ta première grossesse.
Ok. Eh bien, oui, effectivement, là, comme tu disais, dans les films, souvent, on voit que souvent, la personne, elle tombe enceinte même accidentellement. Et on n'est pas préparé forcément à l'attente, parce que nous, on a attendu pendant plus... Enfin, voilà, on a eu plusieurs mois d'attente. On a dû prendre des rendez-vous dans un centre de PMA pour commencer les démarches, puisque moi, j'ai de l'endométriose, de l'adénomyose, plus précisément. Ah oui. Et du coup, les premiers mois ont été un petit peu longs. C'est quelque chose que je ne pensais pas vivre comme ça.
Je me permets de te couper, mais est-ce que avant de lancer le projet d'avoir un enfant, est-ce que tu savais que tu avais de l'endométriose et de l'adénomyose ?
Ouais. Ok. Alors, j'ai de l'adénomyose. L'endométriose, c'est pas avéré. Et en fonction de certains spécialistes, je n'en ai pas. Okay. Voilà. Il y en a qui en ont vu et d'autres qui disent qu'il n'y en a pas. Donc, voilà. Après, du coup, c'est des symptômes qui m'ont fait chercher pourquoi. Voilà. Parce que moi, j'ai commencé à prendre la pilule, j'étais en troisième,
okay.
Parce que j'avais des règles hyper douloureuses et c'était très compliqué dès le début. Donc. Du coup, j'avais ce petit doute de mince, et peut-être que ça va mettre du temps. Et effectivement, ça a mis un peu plus de... On était presque sur 8 à 10 mois d'essai. Bon, ça va, hein, c'est pas non plus énorme, mais sur le moment, quand on les vit au tout début, en tout cas quand on est jeune, on a l'impression que c'est très long. Et du coup, je suis tombée enceinte pour la première fois pendant le confinement. Voilà, donc on était loin de tout le monde, on était très contents. Et j'avais des douleurs. Donc, par visio, mon médecin m'a demandé d'aller aux urgences faire passer une échographie parce qu'il avait peur que ce soit une grossesse extra-utérine. Mmh. Et vu que c'était pendant le confinement, on n'avait pas le droit d'être accompagné, donc j'ai dû y aller toute seule. Donc, on a fait l'échographie Et pendant l'échographie, là, ils m'ont dit « Ah, bah tout va bien, il y a bien une grossesse. Par contre, ça ne doit pas correspondre aux dates que vous nous avez données. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous revenez dans une dizaine de jours. Comme ça, on voit si ça évolue bien ou pas. » Donc, j'y suis retournée, encore toute seule. Ça avait de nouveau évolué. Donc, ils ont dit « Bon, bah c'est bien, vous revenez quand même. » Et je crois que c'est à la troisième fois, j'y suis retournée. Et là, ils m'ont, donc, je suis encore toute seule. Là, c'est l'échographie. À chaque fois, c'est des échographies en plus... endovaginale, donc c'est pas
ouais,
très...
c'est assez enfin, voilà. intrusif, on n'est pas à l'aise.
Ouais. Et du coup, là, elle le fait, donc c'était une jeune, je me souviens très très bien, et là, l'écran, d'habitude, on peut le regarder en même temps, et là, elle a tourné l'écran, et j'ai compris que c'était terminé.
Okay.
Et elle m'a dit qu'elle était désolée, et du coup voilà, donc là après elle me laisse me rhabiller et puis là elle m'a expliqué que j'avais le choix de soit je prenais des médicaments, soit je me faisais opérer. Voilà. Et là j'étais rendue à 9 semaines d'aménorrhée.
Ok. Alors moi je voudrais revenir sur deux termes que tu as utilisés pour un peu voilà un peu éclairer nos auditrices et nos auditeurs. Concernant la grossesse extra-utérine, donc on appelle une grossesse extra-utérine quand la grossesse se développe dans les trompes. Voilà, donc ça peut être dangereux parce que ça peut faire péter la trompe. Donc,
oui,
donc voilà.
Ça. Il y a un risque d'hémorragie interne oui. et donc de mort de la maman, enfin de la paturiente, oui. comme on dit dans le terme médical.
Voilà. Et après, donc, on a parlé de l'écho endovaginal. Donc, en fait, c'est une sonde. D'habitude, on pose les sondes sur le ventre. Et là, la sonde, elle passe par le vagin pour surtout sur les grossesses en fait, en tout début de grossesse, pour pouvoir voir correctement si le bébé se développe bien, étant donné qu'il est tout petit. Donc voilà. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus agréable.
Moi, j'aurais voulu poser la question de la différence entre l'endométriose et donc la deuxième.
L'adénomyose.
Voilà. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce que certains médecins le voient et d'autres ne le voient pas?
L'adénomyose, en fait, c'est en gros, grosso modo, hein, c'est de l'endométriose dans le muscle utérin.
Donc,
l'endométriose, c'est quelque chose qui sort de l'utérus et l'adénomyose, c'est vraiment dans le muscle utérin. Et il y a des spécificités sur le fait qu'il va y avoir des règles qui vont être plus ou moins abondantes, de plus de douleurs au niveau des règles. Mais après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que moi-même, je pense que je n'ai pas toutes les connaissances.
Non, mais c'était parce que souvent, on utilise ce genre de termes ouais. comme ça sur la pause maternelle. Mmh. Mais en fait, tout le monde ne connaît pas. Mmh. Et voilà, ça permet au moins de donner une petite indication pour les personnes qui ressentiraient telle ou telle douleur, de pouvoir dire bah, peut-être que c'est ça, j'ai entendu parler de ça, est-ce que... voilà.
Moi, les plus gros symptômes qui me sont venus, c'était des règles extrêmement douloureuses, à en devenir blanche et pas loin de tomber dans les vapes, et des douleurs aussi pendant des rapports ou... voilà, donc ça c'était vraiment des gros symptômes pour moi, c'était ça. Et du coup, il faut aller voir, alors pourquoi certains médecins ne voient pas, je pense qu'il faut être spécialisé. Et je suis allée voir un médecin qui était spécialisé aussi sur Nantes, qui m'a dit que dans tous les cas, même si on ne voyait pas, parce que parfois on ne voit pas forcément sur les échographies, là on me l'a vu sur une écho, mais on ne l'a pas vu à l'IRM. Et il m'a dit que dans tous les cas, même si on ne le voit ou non, il faudrait ouvrir pour vraiment voir, et on ne va pas juste ouvrir pour aller regarder. Il faut traiter. Faut traiter les symptômes. Donc les douleurs sont là, elles sont réelles, donc on traite et on adapte ça. Donc j'avais vu un médecin de la douleur. Et... enfin voilà, j'ai fait des petites choses là-dessus, mais c'est vrai que si on rencontre des personnes qui sont pas spécialisées là-dedans et ont beaucoup à dire que c'est dans nos têtes et pas ça autre chose,
ça peut
être compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'errances médicales là-dessus. Donc,
Oui, c'est ça, parce qu'un diagnostic pour endométriose, ça met en moyenne quoi, 7 ans, quelque chose comme
c'est
ça.
C'est long, c'est très long.
C'est très très long, donc...
Et toi, tu l'as vécu, tu as été confrontée à des médecins qui minimisaient ta douleur ou qui n'entendaient même pas que tu avais mal?
Oui, quand moi j'ai fait mon IRM, donc j'ai fait mon écho, et là, l'échographe, elle m'a dit, bon, bah, là, je vois des lésions, effectivement. Et quand j'ai fait mon IRM, le médecin, tout de suite après, il est venu me voir, normalement, on attend un petit peu, bah, lui, il est venu me voir, il me dit, non, mais vous avez rien, en fait, je sais pas, on m'a vu à l'écho que j'avais des lésions, j'ai mal, il dit, non, mais vous avez rien. Ok, bon, bah, je rentre chez moi, merci.
Le terme le plus adéquat serait été de dire, je ne vois rien, plutôt que, il n'y a rien.
Exactement. Donc,
ok.
Donc, voilà. Non, moi, c'était pas une partie, c'est une partie qui fait un peu peur aussi, c'est c'est une maladie chronique ou qui peut faire peur en, avec l'infertilité qui est derrière. Ou, c'est pas, on n'est pas infertile, mais on peut avoir des difficultés à avoir des enfants. On peut, ça peut rendre aussi, en fonction du stade, en fonction de chaque personne. La maladie est très, très variée et très vaste en fonction de tout le monde et de l'avancée. Mais, ça peut faire peur quand on regarde sur Internet et qu'on est tout seul et qu'on cherche.
Ne jamais regarder sur Internet toute seule. Il y a des personnes qui sont formées beaucoup plus que ChatGPT ou alors qu'un forum, parce qu'on est des années 90, faut pas non plus. Voilà. Oui. Donc à notre époque, c'était les forums. Et quand tu lançais comme ça une question à la dévotée en te disant tiens, je vais retrouver du réconfort, tu ressortais souvent avec un dossier médical te disant que tu allais mourir dans les 48 heures. Donc à un moment donné, c'est pas mal de laisser ce truc-là de côté. J'irais même plus d'aller voir des spécialistes et d'aller peut-être se renseigner dans des livres, des ouvrages documentés ou ce genre de choses réellement.
Parce ou même des études. On trouve beaucoup d'études maintenant sur Internet.
Voilà. Des fois, ça peut se transmettre et c'est des choses qu'on oublie. Hein, c'est des choses qui peuvent se transmettre quand même de femme à femme et on dit bah, tiens, dans la famille, il s'est passé ça et compagnie. Mais là, on est un petit peu déconnecté, on est un petit peu hors sol. Donc du coup, aller voir sur Internet ou aller voir sur des forums, c'est un peu délicat.
Oui.
Maintenant, le forum serait remplacé par Instagram. Donc, n'allez pas vous poser diagnostic à ces réseaux-là parce que ça risque d'être compliqué pour vous. Oui. Là, je parle pour vous en termes de santé mentale. Voilà, vous infligez pas ça parce que ça peut être très, très difficile. Bon, il n'empêche que toi, tu l'as fait. Alors, comment ça s'est passé?
Là-dessus, ça a été un peu compliqué. J'ai eu beaucoup peur. Je me suis dit, ça se trouve, j'aurai jamais d'enfant. Et moi, je suis née. C'était pas un métier qui me faisait rêver. C'était de devenir maman. Vraiment, devenir maman, c'était le but ultime de ma vie, quoi. Donc, quand j'ai su que je pouvais avoir une maladie qui pouvait m'empêcher de le devenir, ça a été tout un drame pour moi. Et moi, qui suis très sensible, vraiment, ça a été pas simple à vivre. Et puis quand je voyais les mois défiler, c'était pas énorme, hein, on n'a pas attendu non plus, il y en a qui attendent des années et des années, mais quand je voyais les mois défiler pour réussir à tomber enceinte, et ça me réconfortait dans cette angoisse de ça m'arrivera jamais. Et bon, bah finalement, je suis tombée enceinte, mais du coup, la grossesse s'est arrêtée. Et voilà quoi.
Et comment t'as été accompagnée après?
Très mal. Très mal. Du coup, elle m'a dit je vous laisse choisir. Et moi, je suis toute seule. On est en plein confinement. Je sais pas. J'ai pas envie de prendre des médicaments et que ça m'arrive d'expulser chez moi toute seule. J'avais pas envie de ça. Mais j'avais pas envie non plus de me faire opérer. Donc, j'ai demandé à réfléchir. Elle m'a dit qu'il y avait pas de problème, que je pouvais réfléchir pendant 24, 48 heures et que je pourrais revenir après ici. Et c'était juste avant la fin du confinement, ce qui fait que, ou c'était juste après, parce qu'après mon conjoint, il reprenait le travail. Donc il est venu me chercher et j'ai décidé, j'habite à une heure de chez mes parents, et j'ai décidé de me faire opérer, du coup, d'avoir un curetage. Donc, on l'enlève, mais à côté de chez mes parents pour que je puisse ne pas être toute seule la journée, parce que sinon mon conjoint travaillait et je me sentais pas du tout d'être seule la journée. J'avais besoin de réconfort, on va dire, parce que c'était vraiment très difficile à vivre pour moi. Donc j'ai appelé, parce que j'étais suivie au CHU de ma ville, et j'ai appelé le CHU et les cliniques, j'ai le droit de dire les villes?
Oui.
Ouais, non.
Oui, oui.
Donc j'ai appelé le CHU de Nantes et des cliniques à Nantes où on m'a renvoyé balader en me disant que si j'étais capable, si on pouvait m'emmener au CHU de Nantes, on pouvait m'emmener au CHU d'Angers là où j'étais suivie sans souci et qu'ils n'avaient pas à prendre mon dossier et que j'étais suivie là-bas et qu'il fallait que j'en sois. Et on m'a renvoyé aussi balader sur d'autres cliniques et quand j'ai rappelé la clinique où j'étais suivie plus jeune pour l'endométriose et que j'ai eu mon médecin spécialisé sur l'endométriose, dès que je l'ai eu au téléphone, je me souviens très bien, il m'a dit oh, j'ai appris qu'il vous arrive des malheurs. Oh. Et ça m'a fait du bien parce que sur les autres appels, c'était dur à dire, c'était dur, on me renvoyait balader et là, enfin, on validait que c'était pas rien ce que j'étais en train de dire, enfin, c'était pas un choix que de me faire opérer, enfin, je la voulais, c'est une grossesse. Donc ça m'a fait du bien juste cette petite phrase après avoir été baladée comme ça, parce que du coup, j'avais déjà des symptômes de grossesse, j'avais beaucoup, beaucoup de nausées et donc mes parents sont venus chercher et j'ai été opérée du coup dans une clinique à côté de Nantes.
Oui, c'est ça dont on parle pas, dans les espèces de notions, maintenant on commence à moins le dire, mais les notions de fausse couche ou ce genre de choses, où la grossesse n'arrive pas à terme, on a tendance à balayer le fait que peut-être on a ressenti des symptômes, peut-être que c'est quelque chose qu'on désire depuis très très longtemps. En fait, après, c'est une perte, en fait. C'est quand même un deuil, et c'est quand même aussi, je pense que c'est quand même très très violent. Enfin, je pense. Pour l'avoir vécu aussi, je sais que c'est très violent, parce que c'est quelque chose où, en fait, on est heureuse d'un coup, et ensuite tout s'effondre. Ouais. D'un coup, mais aussi net, et ça fait, c'est plus qu'une montagne russe, c'est un pic russe, si on peut parler de cette manière-là, parce qu'on redescend vraiment aussi sec. Et sauf que les personnes autour de nous n'ont pas eu ce laps de temps, ils n'ont pas eu cette maturation, eux. Mais c'est très très dur de se représenter ce que l'autre est en train de traverser à ce moment-là, donc on peut avoir cette forme de détachement, et puis être face à des murs comme ça, administratif, parce que là c'est pour prendre un rendez-vous. Enfin, ça peut être vécu très difficilement parce qu'on est dans une phase de deuil et donc déjà au départ de sidération face à ce qui nous arrive, et prendre des décisions dans les 24 heures face à un moment où on est en sidération, si on n'est pas entouré, c'est très très difficile. Donc,
en fait, c'est de la reconnaissance. Il reconnaît ce que tu es en train de vivre, et c'est ce qui t'a manqué en fait à travers tous ces appels auprès des hôpitaux et des cliniques. C'est d'être reconnu dans ta grossesse. Enfin, à ce moment-là, tu le vivais. Tu vivais de la grossesse, tu vis la perte de ce bébé, et t'as pas été entendu. Et c'est ça qui est assez dingue. Et on le dira jamais assez. Si vous n'êtes pas entendu, n'hésitez pas à changer. Vous trouverez à un moment donné quelqu'un qui vous entendra et qui vous accompagnera comme vous en avez besoin.
Il y a ça, et il y a aussi le fait que le mot reconnaissance, enfin, il y a des mots comme ça où je trouve que c'est presque une honte de dire j'ai envie d'être entendu et reconnu, parce qu'on a passé tellement de temps à nous dire qu'il fallait pas qu'on l'ouvre plus que ça. Considérer sur le moment, c'est important. Oui. Ça veut pas dire que tout s'arrête autour de la personne, et en même temps, quel est le problème sur le fait que ça s'arrête sur une personne à ce moment-là? On peut la mettre en lumière une fois. Une fois, on la met en lumière et on dit, en fait, on s'arrête. Il y a des sociétés qui existent encore aujourd'hui, donc on ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas, où ça s'arrête, où les gens s'arrêtent lorsqu'il y a quelqu'un qui va mal, parce qu'on considère que si cette personne va mal, en fait, le reste de la communauté peut aller mal. Mmh. Donc il est même de notre devoir de soutenir cette personne-là. Donc du coup, on se retrouve face à un truc complètement vertical qui te dit, non, c'est comme ça, pas autrement, ne sois pas reconnu, ne sois pas entendu, parce que presque ce serait des défauts. Mais le défaut, c'est de ne pas écouter, c'est de ne pas entendre, et c'est de ne pas faire preuve d'empathie, en fait. Parce que justement, c'est là que tu te déshumanises et que tu fais le plus de mal aux gens. C'est là qu'ils se blindent.
Et puis,
surtout quand on est des femmes aussi, je trouve.
Oui. Et puis, oublions pas que la reconnaissance, c'est un besoin fondamental. Enfin,
oui.
Et qui est totalement négligé. C'est assez incroyable.
Ouais, là-dessus, c'était pas... Dans l'entourage aussi, hein, il y a des personnes qui ont été incroyables, et c'était vraiment top, parce que vraiment, nous, on l'a vécu, moi et mon mari, on l'a vraiment vécu comme un vrai deuil. Et puis, moi, j'avais des nausées, j'avais très envie d'être enceinte, donc mon ventre est sorti. J'ai appris que j'étais enceinte 18 ou 20 avril, et j'ai eu un curetage aux alentours du 20 mai. Et moi, j'avais déjà un petit ventre. Enfin, bref, c'était assez compliqué. Et quand l'entourage sort des phrases que ce n'était qu'un amas de cellules, ou de toute façon, il y en aura d'autres, on n'a pas envie d'entendre ça. On a juste perdu quelque chose, ou quelqu'un, ou un futur, un rêve, et on a juste besoin d'être dans cette perte et qu'on nous laisse. Parce que quand on nous dit ça, on a l'impression que on n'a pas le droit de ressentir ce qu'on ressent.
Ouais.
Alors que c'était tout à fait légitime. Et moi, ce que j'ai fait, parce que du coup, on est dans les périodes des années. Moi, je suis sur Instagram, je ne sais plus comment j'ai retrouvé ce groupe-là. J'étais dans un groupe de personnes qui avaient vécu des fausses couches à peu près au même moment. Et du coup, on se soutenait, on se parlait, on se disait des mots qu'on avait besoin de... On savait en fait ce que les autres avaient besoin d'entendre ou qu'avaient besoin d'être entendus. Donc franchement, ce groupe-là m'a vraiment fait du bien.
Je suis super contente de l'entendre. De comment est-ce qu'on peut se servir des réseaux sociaux pour aller mieux aussi? Parce qu'on parle du pendant des réseaux sociaux qui peut faire énormément de mal, qui est dangereux et compagnie. Mais lorsque, du coup, le lien, on n'arrive pas à le trouver dans sa propre famille, il faut utiliser, encore une fois, je vais bassiner, mais jusqu'à ce que ça rentre, les trois cercles, c'est-à-dire le cercle familial, ensuite le cercle des amis ou alors groupe associé, et le cercle de professionnels. Donc, avoir des groupes comme ça de soutien, c'est super important. Donc, que toi, tu sois allé trouver cette régénérescence, on va dire, au niveau du lien, je trouve ça super, en fait, parce qu'on peut aussi trouver ça. Mais il faut peut-être chercher un peu plus longtemps. Je ne sais pas, comment est-ce que tu en es venue à trouver ce groupe-là sur Instagram?
Je ne sais plus exactement. Je sais que j'avais commencé à créer un compte sur ma grossesse. Enfin, sur, ben voilà. Et du coup, j'ai fait des posts après sur la fausse couche. Alors, est-ce que c'est arrivé comme ça? Je ne sais pas. Mais voilà, je ne me rappelle plus. C'était...
Bah écoute, c'est pas grave, on va te laisser le temps de te remémorer un petit peu tout ça et on va faire une petite pause musicale. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just.
Nous sommes de retour sur la pause maternelle après une petite pause de musique. Nous sommes avec Mathilde qui est venue nous partager
beaucoup de la colère qu'on n'a pas envie de partager, mais on ne parle pas non plus de cette joie extatique qui fait qu'à un moment donné on n'en peut plus de vouloir juste partager notre joie, mais parce que le trop plein émotionnel quel qu'il soit peut être difficile en fait pour quand on n'a pas été habitué à ça, et du coup je trouve ça très intéressant que simplement là tu l'aies utilisé comme un espace de journaling, de partage d'écrit, pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, mais de partage écrit et vidéo ou photo, en tout cas un journal de ce que tu vis toi, qui est un fragment de vie ici et maintenant, et voilà, qui fait que tu existes au milieu de toutes ces étoiles que nous sommes, quoi. Donc,
et c'était pendant le confinement.
C'était pendant le confinement.
Un moment particulier, et ça me permettait d'avoir, parce que bah, du coup on était seuls pendant le confinement, donc là ça me permettait aussi d'avoir ce petit...
Oui, c'est vrai qu'on a eu encore plus besoin de liens pendant le confinement, c'est vrai que ça c'était...
Oui, puis moi je me dis, qui de mieux pour partager notre choix que des personnes qui partagent les mêmes, enfin qui vivent les mêmes joies que nous. Donc voilà, c'était ma petite phrase c'est philosophique. Vrai.
Elle était très bien, ta petite phrase philosophique. On va même la garder. Je trouve que c'est très bien.
Du coup, ça, c'était pour ma première grossesse. Ça s'est passé comme ça. Voilà. Je vous raconte, du coup, cette...
Oui, c'est justement ce que j'allais dire. Et alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? Comment les choses se sont déroulées? Comment tu as vécu aussi le après? Parce que, enfin... Chaque femme le vit différemment et voilà. Et après, est-ce que tu as pu...
Le après, moi, j'avais envie de retourner enceinte tout de suite. Même si j'étais très triste d'avoir perdu cette grossesse-là, il fallait que ça recommence à tout prix le plus rapidement possible. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que quand c'est une fausse couche ou même un curetage, du coup, que j'ai dû avoir, on a des hormones de grossesse encore pendant plusieurs, ça peut durer plusieurs semaines, le temps que ça redescende. Du coup, il fallait suivre que soit bien parti, et que voilà, donc ça c'était un peu, je me suis sentie un petit peu, bon bah c'est vraiment fini, plusieurs semaines, enfin plusieurs, je sais plus si c'est semaines, peut-être deux, trois semaines, jours, je sais plus, mais enfin c'est fini, après c'était long, après le curtage, oh là, je me suis perdue dans mes explications.
Non, mais il y a ce truc un peu mortifère, effectivement, de soit faire des prises de sang, soit de vérifier, en fait, que les hormones, bêta-HCG, tout ça, sont bien revenus à la normale, en tout cas, ne sont plus là, pour dire qu'il n'y a plus de présence de...
Puis, ce qui montre que nous, psychologiquement, on sait que c'est fini, mais le corps, c'est pas encore fini. Enfin, c'est en train de se finir, mais... Voilà, il y a un décalage.
C'est le respect des cycles aussi et de la physiologie qui fait que c'est société de consommation et nous. C'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton, ça y est, ça s'allume, on enlève ça y est, c'est terminé. Sauf que là, en fait, même après un curetage, c'est pas exactement ça. Ça met du temps, en fait. Et je pense que c'est très important de se dire que les choses prennent du temps.
Ouais, exactement. Et du coup, après, ça a été ça. Et aussi sur l'entourage qui a été très présent sur le moment T. Sauf que psychologiquement... c'est difficile sur l'instant présent, sur le long terme aussi, ça m'a traîné. Et dans l'entourage un peu plus éloigné, parfois, des réflexions, comme je disais tout à l'heure, sur t'en auras d'autres, ou si de toute façon c'est un anesthésiste, c'est un bébé, ça arrive à plein de monde, au moins tu sais que ça marche. Enfin voilà, que des trucs, ça se trouve, j'ai moi-même dit plus jeune à des personnes qui en ont vécu, ou j'en sais rien, parce qu'il n'y a pas du tout de l'intention de faire du mal quand c'est dit, c'est justement pour aider la personne à aller de l'avant. Mais en fait, ça aide pas, ça
met un bâton. Un peu en mode coaching de l'autre, en fait. On peut aussi juste le laisser tranquille.
Juste l'écouter.
Ouais, non, mais juste l'écouter, mais toujours vouloir trouver
des solutions.
C'est pas forcément trouver la solution, parce que trouver une solution, peut-être qu'on l'a, mais qu'on peut juste l'intérioriser et pas forcément l'exprimer. Mais la solution, déjà, la première, c'est juste d'être là, posé à côté et dire de quoi est-ce que tu as besoin. Mais ça, c'est vraiment... Ça, je pense qu'à la fin, ça va être notre gimmick et ça va être ridicule à force de le dire, à quel point la personne a juste besoin d'entendre de quoi est-ce que tu as besoin. Avant de que toi, tu... En fait, souvent, quand on répond aux besoins de l'autre, c'est qu'on met un pansement.
Oui.
On veut mettre un pansement parce que pour se protéger soi, pas être...
Oui, parce que ça
peut... Faut pas être hypocrite, parce que ça crée des trucs chez nous au niveau
émotionnel. Ça peut renvoyer des choses pas confortables.
Qui sont difficiles.
Voilà, mais j'ai eu la chance de retomber enceinte assez rapidement. Donc, j'ai fait le curetage en mai. Et fin août, je tombais enceinte du coup de ma deuxième grossesse. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas ou qu'on ne se rend pas compte, mais que quand on tombe enceinte et qu'on a une fausse couche, après, on retourne voir le personnel médical, on nous demande le nombre de grossesses qu'on a et en fait, elle compte.
C'est
logique qu'elle compte. Mais de le dire, de dire « ok ». Donc là, j'étais rendue à ma deuxième grossesse sans enfant. Donc, très contente de retomber enceinte rapidement. Et du coup, j'ai refait une écho de datation. Et sur l'écho de datation, on a pu voir l'embryon avec son cœur battre. On a pu entendre son cœur. Et là, on m'a redit encore une phrase. On m'a redit « Ah, ça colle pas avec les calculs. C'est pas bon. » Et là, je me suis effondrée. Je me suis mise à pleurer. On a écouté, et pendant qu'on faisait écouter son cœur, tout le monde a cru que je pleurais de joie. Et je leur ai dit « Non, je sais que ça va recommencer. » Alors, est-ce que je me suis dit ça parce qu'on m'a dit la phrase que ça collait pas, ou est-ce que c'est que je le sentais? Parce que l'air a l'air aussi arrêté. Une semaine pile après l'écho de datation, je le perdais naturellement cette fois. Donc, j'ai commencé à avoir des petits saignements, peut-être 2-3 jours après l'écho. On m'a dit de toute façon qu'il n'y avait rien à faire, il fallait attendre. Et puis, une semaine tout pile après l'échographie de datation, là, j'ai vraiment eu très mal et j'ai eu des gros saignements. Et du coup, on a direction les urgences. Et là, dans la voiture, j'ai senti. En fait, ça fait comme une sensation d'un ballon de baudruche qui se dégonfle. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que ça a dû s'arrêter, enfin, que j'ai dû le perdre. Et arrivé là-bas, je leur ai dit, je suis en plein déménagement, donc j'avais aucune protection, j'ai juste mis du papier toilette. Est-ce qu'on pouvait me donner quelque chose? Même si je n'étais pas pris en charge tout de suite, mais au moins qu'on me donne quelque chose. Et on m'a dit oui, on m'a laissé en salle d'attente pendant assez longtemps, et on m'a rien donné. Et c'est que quand j'étais pris en charge qu'on m'a enfin donné quelque chose, parce que je me débrouillais avec ce que j'avais quand j'allais aux toilettes des urgences, quoi. Donc, et lors de l'échographie, là, on m'a dit une phrase, on fait l'écho, on m'a dit, là, il n'y a rien, madame. Je dis, oui, mais il y a une semaine, il y avait quelque chose. Enfin, oui, peut-être, mais là, en tout cas, il n'y a vraiment rien. En tout cas, il n'y a plus rien. Mais au début, c'était il n'y a rien. Comme si c'était dans ma tête la grossesse, alors que non, enfin, j'avais encore des symptômes, j'avais le ventre, et puis en l'air, on avait entendu et vu le cœur, quoi. Donc, du coup, voilà. Je suis tombée enceinte fin août, et en début octobre, la grossesse s'est arrêtée une nouvelle fois. Donc, pareil, encore deux expériences différentes sur... où on pensait pas vivre ce genre de choses, parce que comme je rappelle, moi j'ai vécu avec les films un peu Disney Channel, hein, tout va bien, tout est rose, on tombe enceinte sans faire exprès, et voilà, c'est quelque chose que quand je ça arrive aux autres, mais pas en fait. Donc voilà, ça c'était ma deuxième grossesse.
Ok, et du coup, au niveau pareil de l'accompagnement à la suite de cette interruption de grossesse, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de fausses couches, mais...
Ça s'appelle interruption de grossesse.
Voilà, comme on dit souvent, ça n'a rien de faux. Et comme tu l'as très bien dit aussi, on le vit.
Mais de toute façon, on n'aurait pas les hormones. On n'aurait pas les hormones de grossesse qui apparaîtraient si ça n'était pas une grossesse.
Donc voilà. Parlons d'interruption spontanée.
Une grossesse nerveuse. Je me tais. Mais bref. Oui. De manière générale, qu'on soit bien d'accord. Voilà.
Oui. Donc voilà. Donc parlons plutôt d'interruption spontanée, d'interruption naturelle. Ça a été vécu, enfin ça existe, donc voilà. Et donc du coup on disait, comment as-tu vécu derrière, comment t'as été accompagnée, comment tu l'as vécu toi?
Mon conjoint me l'a mieux vécu, je pense, parce que ça lui était déjà arrivé, donc c'est pas qu'il se préparait, mais voilà, je pense que c'était plus facile pour lui. Moi, je l'ai encore moins bien vécu, parce que cette fois, je l'ai senti. La dernière fois, j'ai été opérée. Là, je l'ai senti. Et là, on a entendu le cœur. La dernière fois, on n'a pas entendu. Pourtant, on était à même date, hein, à peu près. J'étais à chaque fois à 9 semaines d'aménorrhée. Et c'était... Et du coup, j'ai fait de... une fois, j'étais en voiture et j'avais la sensation d'avoir... J'ai jamais eu les mains dedans, hein. J'ai jamais trop regardé non plus, mais en voiture, j'ai eu cette sensation que j'en avais plein sur les mains, c'était quelques semaines après. Et là, je me suis dit, voilà, là, ça m'a vraiment plus marqué que ce que je pensais. Donc, du coup, j'ai fait de l'EDMR pour m'aider à passer à autre chose et que ça me débloque, parce que j'étais vraiment bloquée là-dessus aussi. Et dans l'entourage, pareil, de toute façon, on était là sur les premiers jours. Et puis après, moi, je reste encore dedans. J'ai fait de la peinture, j'ai fait un peu tout. J'ai fait de la peinture, j'ai fait des vidéos, j'ai extériorisé avec de l'art. J'ai fait de chercher partout. Moi, je suis multi, je touche à tout. Donc, j'ai fait plein de choses. J'avais besoin de
t'exprimer, quoi qu'il arrive.
Voilà. Et dans ce malheur-là, j'ai eu la chance de retomber enceinte aussi rapidement. Je pense que ça m'a aussi aidée à passer à autre chose. Et je suis tombée enceinte. Donc du coup, c'était en octobre. Début janvier, j'étais enceinte, du coup, de ma troisième grossesse. Et cette fois, quand j'ai fait pipi sur le test et que j'ai vu qu'il était positif, là, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré d'angoisse. En me disant, ça va recommencer. Ça va... En fait, tous les deux mois, je retombe enceinte. Je tombe enceinte. Deux mois après, je perds. Deux mois après, je retombe enceinte. Deux mois après, je perds. Et on cherche le moindre petit signe. Je suis tombée enceinte la première fois en avril, avec une date d'accouchement pour janvier. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté en mai. Je suis tombée enceinte fin août, septembre. Et avec une date prévue pour mai, là où j'avais fait aussi une interruption. Et puis là, je suis de nouveau tombée enceinte en janvier, alors que j'aurais dû accoucher de la première grossesse.
Il y a toutes les grossesses qui se mélangent en même temps, au moment où on voit ces deux petites barres sur le bâton. Et c'est pas évident, parce que c'est tous les deuils qui suivent, en fait. C'est la succession de deuils. On porte derrière soi, on a déjà un petit sac... de regrets, de douleurs, de tristesse. Et du coup, accueillir une nouvelle grossesse comme ça, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident. Non. Puis retourner dans le système de l'échographie. Qu'est-ce qu'on va me dire à l'échographie? est-ce qu'on va encore me sortir cette phrase-là ? Est-ce que, enfin voilà, j'imagine.
Ouais. Et j'ai su que j'étais enceinte. Alors c'était soit j'étais enceinte, soit j'avais un plus gros problème, mais j'avais du lait. Et donc je pense que mon corps, il a été enceinte tellement de fois en fait dans l'année. Que du coup là encore de nouveau enceinte, bon bah c'est que hop et du coup je suis allée voir le médecin, elle m'a dit bon bah vous attendez, vous faites un test et puis si c'est bon bah c'est que c'est ça, sinon bah on ira plus loin mais c'est pas normal. Et bon bah j'étais enceinte et du coup cette fois j'ai pas voulu faire d'échographie de datation avant les dates de mes fausses couches. J'ai voulu, enfin je l'ai fait à 9 semaines, là où au moins voilà, et du coup, c'est bien passé parce que la grossesse arrivait à son terme. J'ai ma petite fille qui a 4 ans et demi maintenant. Et par contre, enceinte, je pleurais mes grossesses passées parce que chacune était différente et chacune aurait dû être quelqu'un, en tout cas dans mon esprit, dans ma croyance. Et du coup... J'expliquais à ma fille que j'étais très contente qu'elle arrive et qu'elle soit dans mon ventre, mais que je pleurais, j'étais encore triste d'avoir perdu les grossesses d'avant. Et il y a une phrase que ma maman m'avait dit, qui sur le moment, j'avais pas forcément envie de l'entendre, mais qui m'a fait du bien après quand même. C'est qu'elle aussi, elle en avait vécu, et que si elle les avait pas, si elle en avait pas vécu, des grossesses comme ça, elle n'aurait pas eu ma sœur ou mon frère. Et là, j'avais pas vécu ça, j'aurais pas vécu avec ma fille actuellement, je la connaîtrais pas, quoi. Donc voilà. Donc ça m'a fait du bien sur le après, cette phrase-là m'a fait du bien.
La question pour moi, c'est à l'arrivée du coup de ta fille, comment est-ce que tu t'es sentie lorsqu'elle est arrivée ? Est-ce que tu t'es sentie soulagée ? Est-ce que tu t'es sentie perdue ? Est-ce que tu t'es sentie encore apporter ce poids des différentes grossesses ?
Je les ai marquées, elles sont avec moi, j'ai un tatouage. Elles sont avec moi, mes grossesses. Mais quand ma fille est arrivée, j'ai été dans un stress constant. D'aller aux toilettes, même à la maternité, était difficile. Il fallait que j'emmène le berceau avec moi, même si elle dormait. Parce que voilà, il fallait aller chercher son plateau repas dans le couloir, chose extrêmement difficile pour moi parce qu'il fallait que je sorte de la pièce pour aller chercher le plateau. Ça dure quoi, 30 secondes? C'était hyper dur pour moi. Vraiment, cette séparation, et je pense que elle a dû le sentir. Et ma fille est arrivée, alors pas non plus préma, mais elle est arrivée, j'ai fait mon rendez-vous du 9e mois, j'étais à 36 plus 5, et j'ai perdu les os à 36 plus 6, et elle est arrivée à 37. Enfin, le lendemain, quoi, ouais. Vraiment, sous poil, un petit gabarit de 1,8 kg. Et j'ai un peu mal vécu, parce que j'ai pas réussi à faire mon accouchement physio comme je voulais, mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'était surtout ce stress permanent, et qui, je trouve, s'est reporté un petit peu sur son comportement et son stress actuel. Elle est assez anxieuse, elle est assez sensible. Et je pense que, et c'est lié aussi à, enfin c'est pas que je pense, c'est que en tout cas dans mes croyances, c'est lié à la grossesse et à mon comportement aussi à sa naissance et à tout ça. Donc voilà, je l'ai vu, c'était une petite fille qui se rongeait les ongles. Elle avait 18 mois, 2 ans, elle se rongeait déjà les ongles et enfin, c'est pas un comportement qui est courant, on va dire. J'avais essayé de trouver plein d'astuces, plein de choses et faut y croire ou pas, mais moi je pratique le pendule et je l'ai fait du coup sur ma fille comme ça, sans but particulier. Et ce qui est ressorti, c'est la peur de la mort et que en gros ce serait pas lié aux grossesses d'avant où j'avais peur que ça s'arrête et du coup j'avais toute cette peur à chaque fois avec elle. Et donc j'ai mis des mots sur ça, je lui en ai reparlé. Et c'est quelques semaines après, je me suis rendu compte qu'elle avait des ongles longs. Ça faisait des mois et des mois que je pouvais plus lui couper les ongles. Elle avait arrêté de se ronger les ongles. Donc, pour moi, c'était un lien avec le pendule que j'avais fait. Et autre chose, je crois que c'est un an après, j'ai refait le pendule parce qu'elle est suis quand même très stressée. Et il y a quelque chose que je lui ai dit, parce qu'à chaque fois, on me demandait comment s'est passé mes grossesses. Et je disais, ah bah Victoire, elle a mis du temps à arriver. Et bah, ça n'a pas marché tout de suite. Et ça, c'est, voilà, alors qu'Aimé, il a, enfin, c'est mon deuxième enfant, Aimé, il est arrivé d'un coup et ça a marché tout de suite. Et en fait, Victoire, elle est arrivée aussi tout de suite. Et elle s'est aussi, ça s'est très bien passé tout de suite. C'est les grossesses d'avant, ce n'est pas elle. Quoi.
C'est ça, c'est que du coup, tu lui mettais sur les épaules les grossesses précédentes, alors qu'en fait, elle est arrivée naturellement.
Bah oui.
Rapidement entre guillemets, mais elle est arrivée fait, elle est arrivée et elle est arrivée à terme, et le deuxième aussi, donc finalement tu as eu des grossesses naturelles qui se sont bien déroulées, et c'est les précédentes qui font que du coup tu es rentrée dans une forme d'hypervigilance, hein, tout ce que tu décrivais sur le stress et compagnie. Alors le stress, ça peut être pendant la grossesse, et le bébé peut effectivement ressentir ça, mais le plus important, c'est de verbaliser après, c'est de nourrir le lien après. Il faut pas s'en mettre plein la tête non plus sur le fait que le bébé puisse être stressé pendant la grossesse et par rapport à ce qu'on a vécu. Je vois ça avec des femmes qui ont vécu des pertes, hein, pendant leur grossesse, et qui ont peur que ce soit par exemple la perte d'un parent impacte leur grossesse. Bien sûr qu'il y a un impact, mais le premier impact est sur elles, et donc c'est un impact émotionnel. Mais si on commence à verbaliser et surtout à exprimer, comme tu l'as fait toi avec la peinture, avec d'autres choses, et puis là même à travers le pendule, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le véritable but, c'est juste de pouvoir entrer en lien avec ta fille et verbaliser les choses. Et c'est ce que tu as fait en fait, donc c'est essentiel. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale,
oui,
et ensuite qu'on revienne pour terminer l'émission. Go.
Nous sommes de retour sur la pause maternelle, après une petite pause de musique. Nous sommes avec Mathilde, qui est venue nous partager son expérience autour de la maternité. Donc voilà, elle nous racontait qu'après deux interruptions naturelles de grossesse, elle est retombée enceinte, et voilà, et elle a pu arriver à terme de sa grossesse. Alors Mathilde, je te laisse continuer autour de toutes les émotions que tu as pu vivre à l'arrivée de ton bébé.
Bah oui. Du coup, Du coup, j'ai ma petite fille, Victoire, qui est arrivée pile poil à 30 piles, un petit gabarit. Et comme je disais tout à l'heure, c'était très angoissant pour moi de la laisser, même de changer de pièce. Je me souviens, on était allé se promener avec ma belle famille et il y avait un parc qui était interdit aux chiens. Donc, je me suis proposée de rester avec le chien à l'entrée du parc pendant qu'eux, ils faisaient un petit tour de poussette avec ma fille qui avait quelques semaines. Je me suis effondrée. C'est moi qui avais proposé qu'ils puissent faire le tour, ça a duré quoi, 10 minutes gros maximum, et ça a été des minutes vraiment horribles. J'avais l'impression de l'arracher. Le moindre pleur de ma fille aussi était insupportable. Je sais que les enfants s'expriment en pleurant, et pour moi, c'était dès qu'elle pleurait, elle était en train de vivre quelque chose d'atroce. Et c'était très dur à vivre pour moi aussi, parce que du coup, pour moi, c'était très difficile de la voir comme ça, alors que elle avait juste besoin, enfin, c'était ses besoins qu'elle exprimait, juste des besoins. Faut pas la laisser pleurer, hein, mais faut pouvoir l'accompagner sans que ça nous détruise de l'intérieur. Et moi, c'était vraiment ça, c'était le moindre pleur. Ça me prenait aux tripes, là, je sentais mon estomac qui
se retournait.
Ouais, c'était très difficile. Et faut savoir que ma fille aussi a fait des petits malaises. Alors, mon fils aussi, hein, mais ma fille en a fait, on a pensé que c'était de l'épilepsie. En fait, elle faisait ça, c'était très, très impressionnant, flippant. En fait, elle dormait et d'un coup, elle se réveillait, les yeux écarquillés, de la bave qui sortait, les membres qui bougent et elle pouvait plus respirer. Du coup, et moi, le réflexe, c'est que je la prenais et j'essayais de voir pour ça, puis voir si ça pouvait sortir. En fait, c'était des gros reflux qu'elle faisait et je la mettais dans cet état-là. Et en fait, elle le faisait, ça faisait pas de bruit. Oui. Donc la nuit, heureusement que j'étais à côté et dès que je sentais qu'elle bougeait trop ou qu'il y avait quelque chose, j'arrivais à la prendre et à la relever pour l'aider, parce que même si elle était en position un petit peu surélevée au niveau de la tête, c'était pas du tout suffisant. Et on m'avait demandé de filmer ces crises-là, sauf que je savais jamais quand ça allait arriver et c'était pas mon premier réflexe. Mon premier réflexe, c'était de la prendre et de l'aider pour que ça passe, quoi. Mais du coup, ça a pas aidé sur ce stress que j'avais avec elle et que moindre chose, c'était une montagne. Donc voilà. Et puis, c'était mon premier bébé aussi. Je pense que quand on est maman de plusieurs enfants, on se rend compte qu'on n'est pas la même maman au premier comme au deuxième. Et pourtant, faut savoir que c'était mon premier bébé, mais je suis infirmière de formation. Pendant ma formation d'infirmière, j'ai fait des stages en pédopsie, en pédiatrie, en néonat. En néonat, j'ai fait du soin courant, soin intensif et réanimation néonatale. J'ai travaillé en tant qu'infirmière en néonat soin courant et j'ai travaillé en crèche en tant qu'infirmière aussi. Donc au niveau des bébés, j'étais censée quand même savoir un minimum.
Oui.
Pourtant, quand c'était
quand
moi, ça a été vraiment un tsunami de plein de choses. Mais j'ai une phrase qu'on m'a dit, que ma sage-femme m'a dit au niveau de l'allaitement, parce que moi j'ai allaité, alors pour certains c'est un allaitement long, pour certains c'est un allaitement écourté, j'ai allaité jusqu'à 26 mois, mais on m'a dit une phrase au tout début, ma sage-femme, vous faites ça, comment elle m'a dit exactement, alors j'ai plus les mots exacts, mais en gros c'était que je faisais ça extrêmement bien, que je m'écoutais et que j'étais faite pour être maman, et ça m'a vraiment, malgré les difficultés de l'allaitement, les difficultés du postpartum, ça m'a vraiment fait énormément de bien. Donc, faut faire attention à qui on s'entoure. Et c'était pas ma sage-femme qui m'a suivie pendant ma grossesse, parce que j'ai dû arrêter. Les sages-femmes qui m'ont suivie pendant la grossesse de ma fille ont été horribles avec moi sur certaines réflexions. Donc, j'ai arrêté le suivi. Et du coup, j'ai trouvé cette perle à la fin de ma grossesse et elle est venue m'aider. Enfin, elle est venue suivre Victoire dans ses premières semaines de vie. Donc, elle a été incroyable. Et heureusement qu'elle était là. Voilà.
Moi, je voulais revenir sur le fait que tu disais que tu étais infirmière et pourtant, enfin voilà, c'était plus facile avec les autres enfants qu'avec ta fille. Faut pas oublier qu'il y a l'affect qui rentre en jeu et donc du coup, tu es sa maman, tu es pas son infirmière.
Exactement. Ah oui, c'est pas du tout pareil. Il y a cette distance qu'on peut avoir quand on est infirmière en service ou en structure, que là, il y a pas du tout la distance.
Exactement. Non,
toutes les barrières sont tombées quand c'est à notre enfant que ça arrive. On peut essayer d'avoir la tête froide, il y a quand même une part de nous qui bouillonne et qui n'arrive pas, et c'est tout à fait naturel, et tant mieux en même temps aussi, qu'on n'est pas des robots avec autant de distanciation avec nos enfants, parce que c'est ce qui nous permet de créer du lien et d'être avec eux, donc voilà, pas sans vouloir non plus de ça, et tout s'est passé au mieux de toute façon, donc... Voilà, aujourd'hui, je suis sûre que c'est une petite poupette qui est pleine de vie.
Exactement. Et puis, j'ai son petit frère qui est arrivé et qui, lui aussi, a fait les choses autrement. Il est arrivé et il nous a montré la néonate. Cette fois, j'ai connu la néonate, mais de l'autre côté. Pas en tant qu'infirmière, en tant que maman. Et je me rends compte qu'en tant que maman, vraiment, c'est pas du tout adapté. Chambre, c'était atroce.
Hein. Alors, qu'est-ce que toi, tu aurais aimé en tant que maman? Parce que quitte à partager ici, je pense que c'est important que tu puisses dire, toi, qu'est-ce que tu aurais aimé, sachant que tu as les deux casquettes, en fait, maman et infirmière.
C'est ça. Alors, moi, j'ai travaillé en néonat, surtout sur Brest. Et Brest, j'avais fait des stages sur Brest et j'ai travaillé un peu à Nantes. Et là, j'étais à Angers, j'étais au CHU en tant que maman. Là, c'était un open space. Le service, en fait, néonatal, c'est un open space avec plein de chambres avec des baies vitrées. Ils sont tout autour. En fait, ça fait comme c'est un gros service ovale avec du coup des chambres tout autour et au milieu le bureau des infirmières avec des baies vitrées transparentes. Donc au niveau de l'intimité, c'était très compliqué. Et en tant que maman, je sais qu'en tant qu'infirmière, c'est bien parce qu'on peut voir du coup l'enfant sans avoir besoin de rentrer dans la chambre. On peut voir l'enfant dans sa couveuse, dans son lit chauffant. Enfin voilà. Mais en tant que maman, du coup, on a toutes les lumières. Moi, je dormais sur un lit d'appoint, donc je ne pouvais même pas faire du cododo non plus. Puis c'était branché, donc j'étais obligée de le remettre aussi à chaque fois. Mais je pense qu'on on peut essayer de trouver des aménagements pour faire des lits vraiment adaptés pour que le parent puisse complètement dormir et quitte à avoir un lit cododo et garder une baie vitrée ou un grand espace pour pouvoir quand même observer sans avoir besoin de rentrer dans la chambre. Ça, c'est vraiment ce qui a été le plus difficile, de dormir sur le lit d'appoint qui n'est même pas à côté, donc je ne pouvais même pas mettre ma main comme ça. J'étais décalée, donc j'étais obligée de me lever, de me mettre sur un fauteuil à côté de lui qui était branché. Ça, c'était plus dur et il fallait que je sorte du service pour aller manger. La salle de pause et pour me laver, c'était en dehors. J'allais faire la manger, il y avait ça, mais c'était pas non plus aller aux toilettes aussi. C'était pas
pratique, voilà. Au niveau de comment est-ce que tu peux être avec ton enfant. Ils ont réfléchi la chose de comment est-ce que nous, on peut observer les enfants sans les déranger et compagnie, mais du coup, toujours sur cet angle-là de comment est-ce qu'on peut faire nous avec l'enfant, mais pas comment est-ce qu'on peut inclure les parents, puisque de toute façon, les parents sont là au départ, donc comment est-ce qu'on peut les inclure véritablement à l'intérieur de ce cercle-là. Mais c'est important de le dire, je pense. Alors là, c'est pas pour le corps médical, mais c'est vraiment pour peut-être les personnes qui sont architectes et qui conçoivent aussi ces endroits-là. On invisibilise un peu les parents. Les trottoirs sont pas assez larges, les endroits sont pas spécifiquement faits ou adaptés. Je voyais un article sur la Suède. Faut pas nous en vouloir de parler de la Suède, mais c'est vrai que ils ont fait des choses qui font que les gens sont intégrés dans la société, naturellement, sans qu'ils aient à revendiquer. Donc je pense que, tu vois, on parlait de reconnaissance tout à l'heure, mais si on n'a pas envie que les gens viennent dire, mais j'ai besoin d'être reconnu dans le fait que il m'arrive ça, moi, en tant qu'être humain, dans mon unicité, mais peut-être qu'il faut inclure cette unicité et comprendre qu'elle est plurielle et que du coup, comment est-ce qu'on peut inclure de manière générale les parents? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tout le monde puisse être bien, en fait, dans cette société? Et c'est sur beaucoup, beaucoup de choses.
Oui.
L'architecture, sur le soin, sur la manière de parler. Enfin, en fait, on a beaucoup de dynamiques qui rentrent en jeu là-dedans.
Mais il y a un début. Il y a un début parce que j'ai eu la chance d'être en stage pendant plus de 10 semaines en néonat sur Brest. Et Brest, c'est un des centres, un des premiers en néonat qui a intégré le NICAP, qui vient d'Harvard. Mmh. Et le NICAP, c'est vraiment, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais en gros, c'est pour, comment vulgariser, ça va être de prendre l'enfant, le prématuré, le nouveau-né prématuré, de prendre en compte en tant que personne à part entière et de ses besoins, en dehors de tous ses besoins physiologique qu'il y a derrière sur faut le nourrir, faut le changer, faut voilà. C'est vraiment OK. Donc chaque bébé est différent. Il y en a qui vont avoir besoin d'une musique toute douce, d'autres d'un bruit blanc, d'autres de pas de lumière, d'autres d'une lumière bleue. D'autres, son parent, il a la possibilité et la chance de pouvoir rester H24 avec lui. Alors on aménage la chambre. Le lit, il est collé à la couveuse. Enfin, vraiment, c'était... Il y avait une infirmière référente handicap qui venait observer chaque enfant. Et chaque famille, parce que c'était aussi la famille, c'est ça qui est pris en compte. Et pour justement, si on remplit ces besoins-là, ça va aider, parce que du coup j'ai fait mon mémoire là-dessus, ça va aider du coup l'enfant à s'améliorer et à grandir et à évoluer sur des pathologies qui pouvaient traîner derrière, qui peuvent être liées à sa prématurité. Et voilà. Et vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas fait encore partout en France et qui est bien dommage. Et du coup, là, moi, je l'ai vu en tant que... j'ai vraiment souffert en tant que... Je ne suis pas restée super longtemps, on est malade. Je suis restée presque une semaine et demie, mais une semaine et demie H24 où je ne sortais pas de l'hôpital, ce qui était inconcevable pour moi de sortir de l'établissement et de partir et de le laisser tout seul. Enfin, il n'est pas tout seul, hein. Il est avec des infirmières. Mais il y a une seule fois où je l'ai laissé pour aller manger à la cafétéria. Et l'infirmière, elle m'a dit « Ah, ça va, il est devenu violet une seule fois. » Et là, je dis non. Je dis non, je peux pas. Parce qu'il faisait des malaises, en fait, à plus respirer, il faisait des malaises du nourrisson qui ressemblent à des spasmes du sanglier.
Ouais.
Donc, c'était assez impressionnant pour un bébé qui vient de naître. Mais bon, bref, mais du coup, ouais, si quelqu'un nous entend, c'est vraiment de penser famille dans ces espaces-là. Même s'il y a des chambres hein, à côté, mais qui sont éloignées. Il y a des espaces pour manger, mais qui sont un peu plus éloignés. C'est vraiment d'essayer de l'intégrer dans la chambre elle-même de l'enfant qui... Je n'avais pas le droit de manger dans sa chambre, c'était interdit.
Oui, déjà aussi, ce genre de choses, ce n'est pas évident. Voilà, c'est très grand, un hôpital. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et effectivement, ça a été fait ailleurs. Alors, quand tu nous parles en plus de choses qui ont été faites aux États-Unis, on peut se dire qu'en France, on peut essayer. Et à Brest, si ça a été fait, bah, peut-être que c'est reproductible et ça peut être vraiment chouette.
Exactement.
Bon, je parlais d'autre chose sur la pause maternelle version Instagram au niveau des pleurs. Si ça t'intéresse à un moment donné, Mathilde, parce que tu me parlais des pleurs où le bébé a besoin d'exprimer. Et j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir qui sont en hypervigilance parce qu'elles ont failli perdre leur bébé ou parce qu'elles ont eu des grossesses avant qui pouvaient être difficiles. Et il y a un outil qui est magique entre 0 et 5 mois. Pile la période où on se met à popcorniser, oui, je l'ai ressorti, qui est le Dustin Baby Language. Donc j'en parlerai un petit peu, je ferai une petite vidéo là-dessus si tu as envie de voir. Voilà.
Oui, je connais et c'est plutôt pas mal quand on arrive après à bien décoder.
Ouais.
Mais parce que j'avais beau connaître, je me sentais quand même submergée dans des trucs, c'était ça me crispait.
Ouais, c'est pour ça que d'être accompagnée sur plusieurs semaines, c'est pas mal.
Oui.
Quand même. D'avoir une autre oreille.
C'est vrai, ça fait toujours du bien.
C'est la fin de l'émission. Mathilde, un grand merci pour ton témoignage, qui, comme à chaque fois, on a vraiment des témoignages géniaux. Qui
percutants. Et magnifiques, merci beaucoup.
Et qu'on n'entend pas partout, parce que souvent, c'est des sujets quand même qui sont assez sensibles et voilà, qui sont, on va dire, entre guillemets, cachés par la société. Donc, un grand merci à toi, Mathilde. Nous, on se retrouve tous les premiers lundis du mois à 10h pour un nouveau témoignage. Et puis, pour celles qui nous écoutent, si jamais vous souhaitez venir témoigner au micro de la pause maternelle, vous pouvez nous écrire à lapausematernelle@outlook.com. En attendant, prenez soin de vous et au mois prochain.
Au mois prochain, merci beaucoup.
La pause maternelle.